Chapitre 12. Cousine. Les crocs de l'île enferment le glacier dans la gueule du dragon, comme la bouche d'un agonisant déborde de sang. Jeune homme, t'y rendras-tu? Escaladeras-tu la glace pour gagner le respect de tes frères guerriers? Oseras-tu franchir les crevasses, visibles et invisibles? Oseras-tu affronter les bourrasques qui chantent glace-feu endormis dans la glace? Il brûlera de froid tes os. Le vent cuisant est son souffle ardent. Il t'en noircira la peau du visage jusqu'à la détacher de la chair à vif. Jeune homme, t'y risqueras-tu? Pour gagner les faveurs d'une femme, t'aventureras-tu sous la glace sur les pierres noires et humides qui ne voient jamais le ciel? Trouveras-tu la caverne secrète qui ne bée qu'au retrait de la marée? Compteras-tu les battements de ton cœur pour marquer le passage du temps avant que les vagues ne reviennent te broyer contre l'épais toit de glace bleue? L'accueil du dragon. Chanson outrilienne. Traduction de Tom Blaireau. Le lendemain, on nous apprit que tous les différends quant au fait que Devoir devait tuer Glacefeu avait été aplani. Nous retournerions à Zilig accepter les conditions du Hedgurd, puis nous mettrions en route pour Aslevial et la chasse au dragon. Un moment, je me demandais si ce départ précipité avait un rapport avec la scène à laquelle j'avais assisté la veille. Mais je vis qu'on lâchait un oiseau porteur de la nouvelle de notre prochain embarquement, et je supposais que les mêmes ailes avaient apporté la décision des chefs de clan. L'agitation qui s'ensuivit m'évita une entrevue pénible avec le prince, mais me jeta dans une autre sorte de difficulté. L'ours s'opposait farouchement à l'idée de remettre les pieds sur un bateau. Lui répéter que, de toute manière, il devrait en emprunter un pour retourner à la maison, se révéla vain. C'est en de telles occasions que je touchais du doigt les limites de son esprit et de sa logique. Il s'était épanoui depuis qu'il nous connaissait. Sa parole avait gagné non seulement en vocabulaire et en liberté, mais aussi en complexité de pensée. Telle une plante qui accède enfin au soleil, il manifestait une intelligence et des capacités latentes plus grandes que je n'en aurais soupçonnées chez le serviteur attardé qui traînait les pieds dans la tour d'Imbre. Pourtant, ces différences ne le quitteraient jamais. Parfois, il se transformait en enfant effrayé et rebelle, et raisonner avec lui ne menait à rien. Pour finir, Imbre eut recours à un puissant soporifique la veille du voyage, ce qui me contraignit à monter la garde devant ses rêves cette nuit-là. Ils furent inquiets, et je les apaisai du mieux possible. Horty ne vint pas à mon aide, et une sourde crainte m'envahit en même temps que je me réjouis de son absence. L'ours dormait encore d'un sommeil léthargique quand, le lendemain, nous le chargeâmes dans une carriole à main pour le transporter à bord. Je me sentis ridicule à le charrier ainsi sur les routes accidentées qui menaient au quai. Mais Tram resta à mes côtés et bavarda d'un ton aussi naturel que si le spectacle que nous offrions n'avait rien que de très banal. Notre départ parut susciter plus d'intérêt que notre arrivée. Deux navires nous attendaient et je remarquai que la délégation tout entière des six duchés montait à bord de celui du sanglier, comme à l'aller. Anarchesca, Péotre et leur maigre suite embarquèrent sur l'autre, plus petit et plus ancien, au pavillon frappé d'un narval. La grande-mère vint souhaiter bon voyage à sa petite-fille et lui donner sa bénédiction. À ce que j'appris ensuite, la cérémonie se constitua d'autres étapes. Mais je n'en vis pas grand-chose, car l'ours commença de s'agiter sur sa couchette, et je jugeais plus prudent de rester près de lui au cas où il sortirait de son assoupissement artificiel et déciderait de redescendre à terre. Je m'assis sur le plancher de la minuscule cabine qu'on nous avait attribuée, puis m'efforçai de diffuser par l'art un sentiment de paix et de sécurité dans ses songes. Mais, j'eus beau faire, je ne parvins pas à empêcher les mouvements et les bruits du bateau de s'y infiltrer aussi. Il se réveilla en sursaut avec un cri, se dressa sur son lit et parcourut la petite pièce d'un œil à la fois affolé et embrumé.
« C'est un mauvais rêve !»
fit-il d'une voix plaintive. « Non, » répondis-je avec répugnance. C'est la réalité. Mais je te promets qu'il ne t'arrivera rien, lourd, je te le promets.
Tu n'en sais rien. Personne ne sait ce qui peut se passer sur un bateau.
Rétorqua-t-il d'un ton accusateur. J'avais passé un bras autour de ses épaules pour le réconforter quand il s'était réveillé. Il s'écarta brusquement de moi, se roula en boule dans ses couvertures, se tourna face au mur et se mit à pleurer à sanglots convulsifs. « Lourd !» dis-je désemparé. Jamais je n'avais eu davantage l'impression de faire mal à quelqu'un, de me montrer cruel gratuitement.
« Va-t'en !»
Malgré mes remparts, l'ordre d'art qui sous-tendait ces mots rejeta ma tête en arrière, et je me retrouvai debout, la main tendue vers la porte de la cabine exiguë que nous devions partager avec le clan de Vif. Par un effort de volonté, j'interrompis mon geste. « Veux-tu que je t'envoie quelqu'un en particulier ?» demandai-je sans espoir.
« Non, personne ne m'aime. Vous ne faites tous que me raconter des histoires, m'empoisonner et m'emmener sur la mer pour que je meure. Va-t'en !»
J'obéis avec empressement, car son art me poussa dehors comme une puissante rafale glacée. Alors que je franchissais la porte basse, je me redressais trop tôt et me cognais la tête contre le linteau. Étourdi, je gagnais le pont d'un pas chancelant, et le rire sarcastique de Lourd me fut comme un second choc. Je découvris bientôt qu'il ne s'agissait nullement d'un accident. Peut-être le hasard seul présida-t-il à celui-là, mais au cours des quelques jours que dura le voyage, Lourd m'infligea suffisamment de croche-pied d'art pour que j'écarte toute idée de coïncidence. Si je le savais proche, je pouvais parfois contrarier son dessein, mais s'il me voyait d'abord, j'avais soudain l'impression que le navire faisait une brutale embardée. J'essayais de reprendre mon équilibre, ce qui me valait de trébucher sur le pont ou de heurter un bastingage. Mais cette fois-là, je n'y vis que l'effet de ma propre maladresse. Je me rendis chez Humbre et Devoir. Nous jouissions d'une plus grande intimité qu'au cours de nos périples précédents, car Péotre, la Narcheska et ses gardes naviguaient sur l'autre bateau, et les hommes du sanglier qui manœuvraient le nôtre ne paraissaient pas se soucier des rapports que nous entretenions entre nous. Nous n'avions donc guère à feindre. Voilà pourquoi j'allais droit à la porte du prince et frappai. Humbre m'ouvrit. Je les découvris confortablement installés. On leur avait même apporté le petit déjeuner, certes, cuisiné à la mode outrilienne, mais du moins copieux, accompagné d'un vin convenable, et c'est avec plaisir que j'acceptai l'invitation de Devoir à le partager. « Comment va Lourd ?» demanda-t-il sans préambule. J'éprouvais presque du soulagement à lui faire un exposé détaillé de ma nuit, car j'avais redouté qu'il n'exigeât, dès l'abord, des explications sur Horty. Je décrivis l'inconfort et la détresse du petit homme et terminai ainsi. Indépendamment de ses capacités d'artiseur, je ne vois pas comment nous pourrions le forcer à continuer. À chaque navire à bord duquel nous embarquons, son aversion pour moi augmente et il devient plus rétif. Nous risquons de susciter chez lui une inimitié irréversible envers nous, qui le poussera à employer son art à contrarier toutes nos entreprises. Si c'est réalisable, je propose que nous le laissions à Zilig pendant notre séjour sur Aslevial. Humbre reposa brutalement son verre.
« Tu sais que c'est impossible, alors pourquoi soulever la question ?»
Je compris que sous son irritation se dissimulaient des remords et des regrets quand il ajouta
« Franchement, je n'avais pas imaginé qu'il souffrirait tant. N'y a-t-il aucun moyen de lui expliquer l'importance de notre tâche ?»
Peut-être le prince y parviendrait-il. Lourd m'en veut tant pour l'instant qu'il n'entendrait sans doute rien de ce que je lui dirais. « Il n'est pas le seul à vous en vouloir, » fit Devoir d'un ton froid. Son calme même m'avertit que sa colère nichait profondément. Il la retenait comme on retient son épée en attendant une ouverture.
« Voulez-vous que je vous laisse seul ?»
Humbre se leva de table avec une once de précipitation. « Mais non, vous ne savez rien d'Horty ni de son dragon. Ce que Fitz va nous révéler vous ouvrira les yeux autant qu'à moi, je n'en doute pas. » Humbre se rassit lentement, toute retraite coupée par le sarcasme du prince. J'eus soudain la certitude qu'il ne m'aiderait nullement. Au contraire, il savourait de me voir ainsi mis au pied du mur. « Qui est cet Horty ?» demanda Devoir sans embâge. Je répondis sans plus de précaution oratoire. « Ma fille, elle ne le sait pas. » Il se rejeta brusquement contre le dossier de sa chaise, comme si je lui avais jeté un seau d'eau glacée. Un long silence s'ensuivit. Humbre, la peste l'étouffe, se couvrit la bouche de la main, mais j'avais eu le temps d'apercevoir son sourire. Je lui lançai un regard empreint de fureur concentrée. Il baissa la main et ne chercha plus à cacher son air réjoui. « Je vois, » dit Devoir au bout d'un moment. Puis, il poursuivit comme s'il s'agissait de la conclusion la plus importante à laquelle il put parvenir. « J'ai donc une cousine. »
« Une cousine.
Quel âge a-t-elle? Pourquoi je ne la connais pas? Ou bien, l'ai-je croisée sans le savoir? À quand remonte son dernier passage à la cour? Quelle dame est sa mère ?»
Je restais incapable de parler. Mais j'en voulus à Imbre de répondre à ma place.
« Elle n'a jamais séjourné à la cour, mon prince. Sa mère exerce le métier de chandelière, et son père, enfin, celui qu'elle prend pour son père, s'appelle Burick. Il occupait autrefois la charge de maître des écuries au château de Castelserre. Elle doit avoir 16 ans aujourd'hui, je pense. »
Il se tut comme pour laisser le temps au prince d'organiser les pièces qu'il venait de lui fournir.
« Le père de l'Est ? Alors, l'Est est-il votre fils ? Vous avez évoqué un beau-fils, mais... »
« L'Est est le fils de Burick.
Et le demi-frère d'Orty. » Je respirais profondément et m'entendis demander. « Auriez-vous de l'eau de vie ? Il me faut plus que du vin pour raconter cette histoire. »
Je m'en rends compte.
Il alla lui-même chercher la bouteille, plus neveu que prince en cet instant, et prêt à se laisser transporter par de vieilles anecdotes familiales. Le récit me fut pénible, et j'ignore pourquoi les acquiescements compatissants d'Imbre n'arrangeaient rien. Quand j'eus enfin tracé le réseau complexe des fils qui reliaient les personnages de ma vie, Devoir se mit à secouer la tête. « Quel embris à mini vous avez fait de votre existence, Fitz-Chevalerie ? Le tableau que m'en a brossé ma mère devient beaucoup plus compréhensible aujourd'hui. » Mais comme vous devez détester Molly et Burick de leur infidélité, vous avoir mis de côté, oublié, pour chercher le réconfort dans les bras l'un de l'autre. Je restais choqué de cette interprétation.
Non, répondis-je catégoriquement. Ça ne s'est pas passé ainsi. Ils me croyaient mort. Il n'y avait aucune infidélité de leur part à continuer à vivre. Et si Molly devait se donner à quelqu'un, eh bien, j'aime autant qu'elle ait choisi un homme digne d'elle, et je me réjouis qu'il ait trouvé un certain bonheur, et qu'ils aient protégé ensemble mon enfant. Ma gorge se serrait, et j'avais de plus en plus de mal à m'exprimer. Je la dénouai en buvant une rasade d'alcool, que suivit un soupir sifflant. C'était l'homme qu'il lui fallait. Ajoutai-je tant bien que mal. Que de fois m'étais-je répété cette phrase au long des années.
Mais le pensait-elle elle-même ?
Fit le prince d'une voix songeuse. Puis, devant mon expression, il se reprit en hâte. « Je vous demande pardon. Je n'ai pas à poser ce genre de questions. Mais, je n'en demeure pas moins effaré que ma mère ait donné son consentement à cette situation. Souvent, elle m'a décrit avec force tout le poids qui repose sur mes épaules en tant qu'unique héritier de la couronne.
« Elle a cédé au sentiment de Fitz, contre mon conseil, » expliqua Imbre.
Je sentis la satisfaction qu'il éprouvait à se venger enfin.
Je vois. Ou plutôt non, je ne vois rien. Mais pour le moment, je voudrais savoir comment vous formez Orty à l'art. Habitiez-vous près de chez elle avant ou bien...
Je ne la forme pas. Ce qu'elle en connaît, elle l'a appris seule.
Mais c'est terriblement dangereux, paraît-il.
L'ébahissement de Devoir s'accrut encore.
Comment pouvez-vous la laisser se mettre ainsi en péril, sachant son importance pour le trône loin voyant ?
Il détourna ses yeux de moi pour les porter vers Imbre, l'air accusateur.
« L'avez-vous empêché de venir à la cour ? Est-ce votre fait, une volonté ridicule de protéger le nom des loin-voyants ? »
« Nullement, mon prince, »
répondit le vieil assassin d'un ton suave. Il me regarda calmement et poursuivit.
« À de nombreuses reprises, j'ai demandé à Fitz d'autoriser la venue d'Orty à Castelserre afin qu'elle découvre sa place essentielle dans la lignée royale et accède à l'enseignement de sa magie. Mais, je vous le répète, dans ce domaine, Fitz laissait le dernier mot à ses sentiments, à l'encontre de la vie de sa majesté et du mien. »
Le prince respira profondément plusieurs fois.
« C'est incroyable, » dit-il enfin à mi-voix. « Et intolérable. Il faut corriger cela. Je m'en occuperai moi-même.
Comment ? » demandai-je avec angoisse.
« En révélant sa véritable identité à cette jeune fille, et en la faisant venir à la cour afin qu'on la traite comme il sied à sa naissance. Qu'elle reçoive une éducation complète, y compris dans l'art. » Ma cousine est élevée comme une campagnarde. Elle apprend à tremper des chandelles et à nourrir des poules. Et si le trône avait besoin d'elle ?
Je n'arrive toujours pas à croire que ma mère ait pu laisser s'installer une telle gabegie.
Y a-t-il de plus effrayant que de se trouver en présence d'un enfant de 15 ans, sûr de son bon droit et qui a le pouvoir de réduire à néant l'existence qu'on a bâtie jusque-là? Pris de nausée, devant ma propre vulnérabilité, je murmurais d'un ton implorant.
Vous n'avez aucune idée de l'impact que cela aurait sur ma vie.
Non, en effet,
reconnut-il sans vergogne, mais avec une indignation croissante.
Et vous non plus. Vous vous autorisez à prendre des décisions d'une portée incalculable sur ce que les autres doivent ou non savoir sur eux-mêmes, mais ignorez autant que moi quels en seront les résultats. Vous faites les choix qui, selon vous, présentent le moins de risques, puis vous vous fondez dans le paysage en espérant que personne ne s'apercevra de rien et qu'on ne vous fera pas porter le chapeau si les choses tournent mal.
Sa colère virait à la fureur noire, et j'eus soudain l'intuition que la découverte de l'existence d'Orty n'en était pas la seule cause.
Pourquoi vous mettre dans tes états pareils ?
Demandai-je brutalement. Cette affaire ne vous concerne pas personnellement.
Elle ne me concerne pas personnellement ?
Il se leva, renversant sa chaise à demi.
Comment Orty pourrait-elle ne pas me concerner ? N'avons-nous pas un grand-père commun ? Ne descend-elle pas des loins voyants et ne possède-t-elle pas la magie de l'art ? Savez-vous ?
Il s'étrangla et se ressaisit. Plus bas, il poursuivit. Ne concevez-vous pas l'importance qu'aurait eu pour moi d'avoir quelqu'un de semblable à moi dans mon enfance ? Quelqu'un de mon sang ? Quelqu'un de mon âge à qui parler ? Quelqu'un qui aurait dû partager avec moi ma responsabilité envers le trône loin voyant, si bien que je n'en aurais pas porté seul tout le poids. Il jeta un regard de côté, comme s'il pouvait voir à travers la paroi de la cabine, et poussa un petit grognement accablé.
Elle pourrait se trouver ici même à ma place, promise à un époux tridien. Si ma mère et Imbre avaient disposé de deux loin voyants au lieu d'un pour acheter la paix, qui sait ?
Cette idée me glaça les sangs. Mais je ne voulus pas lui révéler que je m'étais efforcé d'éviter précisément ce sort à Orty. Je lui avouai une autre vérité. Jamais il ne m'est venu à l'esprit d'adopter votre point de vue sur cette question. Jamais je n'ai songé qu'elle pouvait avoir un impact sur vous.
Eh bien, elle en a un.
Il se tourna brusquement vers Imbre.
Vous aussi, vous avez fait preuve d'une négligence intolérable. Après moi, cette fille est l'héritière du trône. Cela doit être écrit officiellement, noir sur blanc, et attesté. L'acte aurait d'ailleurs dû être rédigé avant mon départ des six duchés. S'il m'arrive malheur, si je meurs en coupant la tête de ce dragon congelé, il s'ensuivra la plus grande pagaille, chacun tenant à proposer celui qui...
L'acte a été dressé, mon prince, il y a bien des années déjà, et les documents placés en lieu sûr. En cela, je n'ai fait preuve d'aucune négligence.
Imbre paraissait outré que devoir pût penser autrement.
J'aurais aimé le savoir. L'un ou l'autre d'entre vous peut-il m'expliquer pourquoi il fallait impérativement me cacher ces faits ?
Il nous foudroya des yeux tous les deux, puis son regard s'arrêta sur moi.
J'ai l'impression que vous passez une bonne partie de votre existence à prendre des décisions à la place des autres, à faire ce que vous jugez le mieux sans leur demander ce qu'ils préfèrent. Or, vous n'avez pas toujours raison.
Je réussis à conserver mon calme. C'est l'ennui des décisions. On ne sait si elles sont bonnes qu'après les avoir prises. Mais c'est le rôle d'un adulte. Il doit faire des choix puis en supporter les conséquences. Il se tut un moment, puis il dit.
Et si je faisais, en adulte, celui de dévoiler à Orty sa véritable identité, afin de réparer au moins une partie des torts que nous avons envers elle?
Je poussai un soupir. Je vous supplie de vous en abstenir. Je ne voudrais pas que ce fardeau tombe aussi brutalement sur ses épaules. Il se tut plus longtemps encore, puis demanda avec un sourire mi-figue mi-raisin.
Ai-je d'autres parents dissimulés, prêts à surgir dans mon existence, quand je ne m'y attends le moins ?
Pas que je sache, répondis-je avec sérieux. Je poursuivis d'un ton plus grave. S'il vous plaît, mon prince, permettez que je me charge moi-même de la mettre au courant, s'il faut tout lui révéler.
Vous avez tout fait pour mériter cette tâche, en effet,
répliqua-t-il, et Imbre, qui avait retrouvé sa solennité, sourit à nouveau. D'un air de vague regret de voir repris.
Elle paraît douée d'un art puissant. Songez à notre situation si elle nous accompagnait. Nous aurions pu compter sur elle et laisser lourd tranquillement à Castelserre.
À la vérité, elle sait bien le prendre. Elle parvient excellemment à l'apaiser et elle a réussi à gagner sa confiance, en partie du moins.
C'est elle qui a calmé ses cauchemars pendant que nous naviguions vers Zilig. Mais pour vous répondre, mon prince, non. L'our est devenu trop fort et trop imprévisible pour le laisser sans surveillance, et il faudra traiter ce problème un jour ou l'autre. Plus nous l'instruisons, plus il devient dangereux. Je ne vois qu'un remède à l'entêtement de l'our. Le ramener chez nous et lui rendre son existence familière. Il retrouvera, je pense, un tempérament plus égal. Hélas, avant cela, je dois chercher et tuer un dragon. Malgré mon soulagement à avoir s'éloigné le sujet d'Orti, je me sentis obligé de boucher une dernière fissure. Mon prince, Lest n'est au courant de rien. Il ignore qu'Orti est ma fille et seulement sa demi-sœur. J'aimerais que cela ne change pas.
Ah, évidemment. Quand vous avez décidé d'imposer votre chape de mystère, vous n'avez pas songé aux enfants qui viendraient peut-être plus tard et pourraient en souffrir.
Vous avez raison, je n'y ai pas songé. Fis-je avec raideur.
Très bien, je garderai le silence, pour le moment. Mais imaginez, je vous prie, ce que vous ressentiriez si vous découvriez soudain qui sont vos vrais parents.
Il pencha la tête.
Réfléchissez. Si l'on vous révélait tout à coup que vous n'êtes pas le fils de chevalerie, mais celui de vérité, ou de royal, ou d'imbre, remercieriez-vous ceux qui le savaient depuis toujours et vous ont protégé de la vérité?
L'abîme glacée du doute s'ouvrit un instant sous mes pieds, alors même que je rejetais ces élucubrations. Certes, je savais Imbre capable de pareilles supercheries, mais la raison en niait la possibilité. Néanmoins, devoir avait atteint son but. Il avait suscité en moi la colère que j'aurais éprouvée si j'avais été la victime d'une telle duperie. Je leur en voudrais sans doute à mort, reconnus-je. Je plantai mon regard dans le sien pour ajouter, et j'y trouve une raison de plus pour souhaiter qu'Orti ne sache rien. Le prince fit la moue puis hocha la tête. Par ce mouvement, il ne me promettait pas le secret, mais acceptait le fait que le révéler impliquerait de grandes difficultés. Je n'obtiendrais pas mieux, je le savais. J'espérais qu'il changerait de sujet, mais, fronçant légèrement les sourcils, il demanda brusquement.
« Et pourquoi la reine, je n'en crois pas un mot, fraye-t-elle avec le dragon de Terrilleville ? Serait-elle de mèche avec Tintaglia ?»«
Non, mon prince, » m'exclamai-je, choqué qu'il pût croire cela d'elle. Tintaglia l'a repéré en surveillant mes pensées, du moins je le pense. Quand nous artisons avec force, je suppose que la dragonne le perçoit, ou bien, comme l'our et vous-même l'avez découvert en vous déplaçant en rêve. Tintaglia a pu apprendre quelques détails sur moi lors de la visite de la délégation terrilvillienne à Castelserre. Nous avons artisé sans précaution alors, et elle m'a remarqué. Elle sait que je fréquente Orti, et elle tente de la menacer afin de me tirer les vers du nez. Elle veut des renseignements sur le dragon noir, Glacefeu. Comme tous les petits de son espèce nés dans le désert des pluies sont des avortons, ils représentent peut-être son dernier espoir de s'accoupler, et donc de se reproduire. Mais nous n'avons aucun moyen de protéger Orti. Avec une certaine fierté, je répondis. Elle s'est montrée fort capable de faire face seule à la dragonne. Elle nous a défendus tous les deux, mieux que je n'y serais parvenu. Il me mesura du regard. Et elle continuera sans doute, tant que cette créature n'interviendra qu'en rêve. Mais nous n'en savons guère sur cette Tintaglia. Si, ainsi que vous l'avez laissé entendre, le dragon noir constitue son unique espoir de se reproduire, elle risque de recourir à des moyens extrêmes. Orti se défend peut-être très bien dans ses songes, mais comment se débrouillera-t-elle si un dragon en chair et en os se pose devant sa porte? La maison de Burik résistera-t-elle à sa fureur? Mon esprit se détourna de cette image.
Apparemment, elle ne rend visite à Orti que la nuit, pendant son sommeil.
Peut-être ignore-t-elle où la trouver physiquement.
Ou bien, elle préfère rester auprès de ses rejetons pour le moment.
Mais demain, ou dans une heure, à bout de désespoir, elle s'envolera pour se rendre chez Orti. Il ferma les paupières et se massa les tempes du talon des mains. Il rouvrit les yeux et secoua la tête en me regardant.
« Je n'arrive pas à concevoir que vous n'ayez pas envisagé ce risque. Qu'allons-nous faire ?»
Sans attendre ma réponse, il se tourna vers Imbre.
Avons-nous des oiseaux messagers à bord ?
« Naturellement, mon prince.
Je vais écrire à ma mère. Il faut placer Orti en sécurité à Castelserre. Suis-je bête ? Il prendrait beaucoup moins de temps de l'artiser pour la prévenir du danger et l'envoyer à ma mère. »
Il se frotta les yeux, puis poussa un long soupir. Je regrette, Fitz-Chevalerie, murmura-t-il, avec une sincérité non feinte. Si elle ne courait aucun risque, je pourrais peut-être laisser la situation en l'état, mais c'est impossible, et je m'étonne que vous n'y ayez rien changé vous-même. J'inclinai la tête. J'accueillais ces paroles avec une sensation singulière qui n'était ni de la colère, ni de l'accablement, mais le sentiment de l'inévitable qui l'emportait enfin. Un frisson me parcourut, dressant les poils de mes mains et de mes bras dans son sillage, et l'image surgit à mon esprit du fou qui souriait avec satisfaction. Je baissai les yeux et m'aperçus que je touchais encore une fois de l'index ses empreintes sur mon poignet. J'éprouvais ce qu'éprouve un joueur que son adversaire a poussé à un coup fatal au jeu des cailloux, ou un loup qui se retrouve acculé à la fin d'une chasse. L'immensité de l'événement empêche les regrets ou la peur. On ne peut que rester pétrifié en attendant l'avalanche de conséquences qui doit suivre. « Fitz-Chevalerie ?» fit Humbre comme je demeurais muet. J'entendis l'inquiétude qui perçait dans sa voix, et le regard empreint de bonté qu'il m'adressa me fit mal. « Burick le sait, » dis-je gauchement. « Il sait que je suis vivant. » Je lui ai fait passer un message par Horty, que lui seul pouvait comprendre. J'avais donné ma parole à Horty que son frère, que Lest, se trouvait bien avec nous et ne craignait rien. Et je voulais en assurer Burick aussi. Il s'est présenté devant Ketriken, et peut-être a-t-il parlé au fou également. Donc, il est au courant. Je repris mon souffle. Peut-être même s'attend-il à une issue, comme une convocation à la cour. Il doit se douter qu'Horty possède l'art. Comment aurais-je pu l'avertir que l'Est se portait bien autrement? Il faisait fonction de servant auprès de chevalerie. Il connaît donc l'art. Pourquoi a-t-il fallu que mon père l'en coupe totalement? Si seulement je pouvais entrer en contact avec lui. Mais je crois que je n'en aurais pas le courage, de toute façon. Burick était le servant de chevalerie? De voir, en équilibre sur ses pieds arrière de sa chaise, nous regarda tour à tour, l'air abasourdi. Il fournissait de l'énergie au prince chevalerie pour artiser, oui, confirmai-je. Il secoua lentement la tête. Encore un détail qu'on avait omis de me confier. Il redressa brutalement sa chaise, dont les pieds heurtèrent le pont avec fracas. « Mais que faut-il donc faire ? » s'exclama-t-il avec colère. « Quelle catastrophe dois-je déclencher pour vous arracher tous les secrets à vous deux ?»«
Il ne s'agissait pas d'un secret, » répondit Humbre avec effort, « mais d'un morceau d'histoire ancienne, oublié de longue date, car il n'avait guère d'importance pour le présent. « Fitz, as-tu la certitude que Burick est complètement fermé à l'art ?»«
Oui, j'ai tenté de nombreuses fois de le contacter. J'ai même essayé de puiser dans sa réserve d'art, jadis dans les montagnes, mais sans résultat. Il est impénétrable. »
Horty s'était forcé de s'introduire dans ses rêves, en vain elle aussi. J'ignore exactement quelle opération chevalerie a pratiquée sur lui, mais il n'a rien laissé au hasard.
Intéressant. Il faudrait chercher à découvrir comment ton père s'y est pris. Si un jour vient où nous devons éliminer l'art de lourd, devenu dangereux, le fermer pourrait constituer une solution.
Humbre réfléchissait tout haut, comme souvent, sans songer qu'on pût juger ses propos révoltants.
Assez, fit sèchement le prince.
Et nous tressaillîmes tous deux, surpris de cette véhémence. Il croisa les bras et secoua la tête.
On dirait deux marionnettistes qui observent de loin la vie des gens et discutent de la manière dont ils vont les manipuler.
Son regard passa lentement d'Humbre à moi, nous forçant à le soutenir. Jeune et vulnérable, il prit l'expression rusée d'une proie acculée.
Savez-vous que vous m'épouvantez parfois?
Comment, devant la façon dont vous avez manœuvré la vie d'Horty, pourrais-je ne pas me demander quel entortillement vous avez imprimé à la mienne en toute connaissance de cause?
Vous parlez, Humbre, avec un calme parfait de fermer lourd à la magie de l'art. Ne suis-je pas en droit de m'inquiéter que vous joigniez vos forces et m'imposiez la même sanction si je devais mettre vos plans en péril?
Je restais choqué qu'il nous mît dans le même sac, et pourtant, si affreuses qu'elles fussent, je ne pouvais rejeter ces accusations. Alors qu'il se trouvait embarqué dans une quête dont il ne voulait pas pour conquérir une épouse qu'il n'avait pas choisie. Je n'osais pas regarder Humbre.
Comment le prince aurait-il interprété que nous échangions un coup d'œil en cet instant? J'observais mon verre d'eau-de-vie, le levai entre deux doigts et fit tournoyer le liquide comme j'avais vu souvent en vérité le faire quand il réfléchissait. Mais s'il entreapercevait des réponses dans l'alcool qui dansait, elles me demeuraient imperceptibles. J'entendis le raclement de la chaise d'Ambre qui reculait et coulai un regard dans sa direction. Il se leva, plus âgé que 10 minutes auparavant, et contourna lentement la table. Comme le prince se tournait pour le suivre des yeux, l'air intrigué, le vieil assassin planta péniblement un genou en terre, puis les deux, devant lui, et courba la tête. « Mon prince, » fit-il. Puis sa voix se brisa. Il reprit. « Vous serez mon roi. Voilà mon seul plan à votre endroit. Jamais je ne lèverai la main contre vous, non, ni n'inciterai personne à vous faire du mal. Recevez dès aujourd'hui, si vous le désirez, mon serment de fidélité que d'autres vous prêteront seulement après votre couronnement solennel, car il est à vous depuis l'instant de votre naissance. Que dis-je? Depuis l'instant de votre conception. » Des larmes me piquaient les yeux. Devoir posa les mains sur ses hanches et se pencha sur la nuque d'Ambre. « Et vous m'avez menti ?»«
J'ignore tout de cet arti et de ce dragon. »
Il imitait parfaitement le ton innocent du vieux conseiller. « N'est-ce pas ce que vous m'avez dit ?» Un long silence s'ensuivit. J'avais mal pour le vieil homme à genoux sur le plancher dur. Ambre prit son souffle et répondit à contre-cœur.
« Je ne crois pas juste de parler de mensonges quand nous savons tous les deux que je mens. Un homme dans ma position doit parfois cacher la vérité à son seigneur afin que son seigneur puisse s'exprimer en toute sincérité quand on lui demande ce qu'il sait de certains sujets.
Ah, relevez-vous donc !» s'exclama le prince avec un mélange de dégoût et d'amusement là. « Vous déformez tellement la réalité que nous ne savons plus, ni vous ni moi, de quoi traite la conversation. Vous pouvez bien me jurer fidélité 1000 fois, mais si demain vous considérez qu'une bonne purge me ferait du bien, vous n'hésiterez pas à glisser un émétique dans mon verre. » Il quitta sa chaise et tendit la main. Ambre la prit et Devoir l'aida à se remettre debout. Le vieil assassin redressa l'échine avec un gémissement, puis retourna à sa place. Ni les paroles brutales de Devoir, ni l'échec de sa protestation de loyauté ne paraissait l'avoir déconfit. À quoi venais-je donc d'assister? Je mesurais, ce n'était pas la première fois, à quel point la relation du vieil assassin et du prince adolescent s'éloignait de celle qui nous unissait quand j'avais l'âge de Devoir, et j'eus alors ma réponse. Quand Timbre et moi discutions, nous discutions comme deux marchands, sans honte, des petits secrets malpropres de notre profession. Nous ne devions plus parler ainsi devant le prince. La mort n'était pas son métier, et il fallait le tenir à l'écart de nos entreprises les plus infâmes, sans lui mentir, mais sans les lui jeter à la figure non plus. Peut-être cherchait-il à nous le rappeler par ses dernières paroles. Je secouai la tête, admiratif. L'aura du souverain commençait à s'épanouir en lui, aussi naturellement que l'instinct de la chasse chez le petit matin qui suit une piste. Déjà, il savait nous placer et nous utiliser. Je m'en sentis non diminué, mais rassuré. Presque aussitôt, il me dépouilla de ce réconfort. « Fitz Chevalerie, j'entends que vous vous adressiez à Orti cette nuit même, lorsqu'elle dormira. Transmettez-lui mon ordre, qu'elle se rende sans plus attendre à Castelserre et requiert asile à ma mère. Cela devrait la convaincre que je suis bien celui que je prétends. Le ferez-vous » « Dois-je absolument employer vos termes ? » demandai-je à contre-cœur.
« Ma foi, vous pouvez peut-être les modifier. Ah, et puis, dites-lui ce que vous voulez, du moment qu'elle part aussitôt pour Castelserre et comprend la réalité du danger qu'elle court. J'enverrai un bref message à ma mère par oiseau voyageur, afin de ne laisser aucune place au doute sur ma décision. »
Il se leva, en poussant un grand soupir.
« Et maintenant, je vais me coucher, dans un vrai lit, derrière une porte close, et non étalé sur une planche dans une salle commune comme un trophée de chasse. Jamais je ne me suis senti aussi exténué. »
Avec soulagement, je quittai la cabine et fis un tour sur le pont. Le vent était frais. La journée ensoleillée
et risque parcourait le ciel en avant du navire. J'ignorais si la tâche qui m'attendait suscitait chez moi la crainte ou l'euphorie. Devoir n'avait pas précisé que je devais apprendre à Horty qu'elle était ma fille. Toutefois, l'envoyer à Castelcerf l'amènerait inéluctablement à cette découverte. Je secouai la tête. Je ne savais plus ce que je devais espérer. Il y avait cependant une angoisse sur laquelle je n'avais pas d'incertitude. Les propos du prince sur Tintaglia m'avaient ébranlé. Avais-je fait preuve d'une assurance excessive quant à la capacité d'Horty à l'emporter sur la dragonne? Se pouvait-il que la créature sût où la trouver? Les heures qui me séparaient de la nuit passèrent avec lenteur. J'allais voir Lourd par deux fois. Pelotonné sur sa couchette, face à la paroi, il persistait à se prétendre nauséeux. Mais en vérité, je pensais qu'il s'accoutumait, malgré lui, au voyage en mer. Quand je lui dis qu'il ne me paraissait plus malade et qu'une promenade sur le pont lui ferait peut-être du bien, il faillit réussir à vomir à mes pieds à force de violent haut le cœur. Ils s'achevèrent tout de même en une crise de toux rauque d'arrière-gorge qui me fit juger plus raisonnable de le laisser en paix. Comme je sortais, je heurtais le chambranle par accident. Lourd éclata de rire. La main sur ma nouvelle meurtrissure, je regagnai l'extérieur. Sur le gaillard d'avant, je tombai sur Crible qui, muni d'un carré de tissu et d'une poignée de petits galets, essayait d'enseigner le jeu des cailloux à deux hommes d'équipage. Je m'éloignai de ce tableau troublant et trouvai l'Est en compagnie de civils. Le Marguet avait escaladé un des mâts et il s'efforçait de le convaincre de redescendre, au grand agacement du capitaine et au franc amusement de plusieurs matelots trilliens. Risque se posa dans le gréement, hors de portée de l'animal, et se mit à le taquiner avec force cri, les ailes à demi levées, jusqu'à ce que Tram vint lui ordonner de cesser et d'aider plutôt à ramener le Marguet sur le pont. La journée s'écoula ainsi, et le crépuscule à la fois redouté et désiré tomba. Je retournai à la cabine que je partageais avec Lourd. L'Est lui avait apporté son dîner, et les plats vides par terre indiquaient apparemment qu'il avait recouvré son appétit. Je les empilai, puis les posai de côté, ce qui ne m'empêcha pas de trébucher sur eux un instant plus tard. Seul le petit gloussement de Lourd m'avertit qu'il avait été témoin de ma maladresse. Il dédaigna de me répondre quand je lui souhaitais une bonne nuit. Comme il occupait la seule couchette, je m'étendis dans mes couvertures à même le plancher, puis passai un long moment à établir la tranquillité d'esprit qui me permit de m'approcher du sommeil et à trouver l'espace suspendu entre l'endormissement et l'état de veille où je pouvais me déplacer par l'art. Peine perdue. J'eus beau chercher Horty, je ne la détectais nulle part. L'anxiété m'empêcha de fermer l'œil, et j'occupai le plus clair de ma nuit à effectuer des incursions infécondes dans des rêves. Plus je me démenais, plus son absence s'accentuait. Dans l'obscurité étouffante de la cabine, je songeais que, s'il lui était arrivé malheur, je l'aurais certainement senti par le lien d'art qui nous unissait. Elle m'aurait sûrement appelé si un danger l'avait menacé. Je me rassurais en me disant qu'elle m'avait déjà interdit l'accès à ses rêves par le passé. Et puis, la dernière fois que je l'avais vue, elle m'en voulait d'avoir introduit le prince dans notre décor commun. Peut-être subissais-je sa punition. Mais les yeux ouverts dans le noir, je songeais soudain que, lors de ma récente rencontre avec Tintaglia, la dragonne avait affirmé être capable de me couper d'Horty à volonté. Quelles étaient les paroles exactes qu'elle avait adressées à ma fille? « Tu es toute seule si j'en décide ainsi. » Où se trouvait Horty à présent? Prise au piège dans un rêve? Tourmentée par un dragon? Non. Elle a démontré qu'elle savait se défendre efficacement. Je maudis la logique que m'avait enseignée Imbre, car elle répondait que, dans ce cas, la créature déplacerait l'affrontement sur un champ de bataille plus à son goût, en pourchassant physiquement ma fille, par exemple. À quelle vitesse un dragon volait-il? Assez grande pour rallier Serre depuis le fleuve du désert des pluies en une seule nuit? Non, assurément. Mais je n'avais aucun moyen de le savoir avec certitude. Je me tournais et me retournais sur le plancher en me recroquevillant sous mes couvertures trop courtes. Quand le matin arriva enfin, je me levai en titubant, les yeux piquants. Je me pris les pieds dans ma literie et tombai en me cognant douloureusement les tibias. Mes jurons ne parurent pas empêcher Lourd de dormir. Je sortis et allai directement rendre compte au prince qui m'écouta dans un silence lugubre. Ni Imbre, ni lui ne souligna ma stupidité d'avoir laissé ma fille sans défense face à un dragon sous prétexte de la protéger. Devoir déclara simplement « Espérons qu'elle est seulement en colère contre vous. J'ai envoyé mon message cette nuit. Dès qu'il atteindra Castelserre, ma mère enverra chercher Horty. Je lui ai dit la gravité du péril et l'urgence de la situation. Nous avons fait notre possible, Fitz. »
Maigre réconfort. Quand je ne voyais pas la dragonne se repaître de la tendre chair de ma fille, j'imaginais la réaction de Burick devant une section de gardes royaux débarquant chez lui pour emmener Horty à Castelserre. Le trajet se poursuivit dans les affres de l'incertitude, sans grand-chose pour me distraire, à part les mauvais tours sournois que Lour, Mossad, me jouait pour se venger. La deuxième fois que je m'éraflais les phalanges, en voulant saisir la poignée de la porte, je me rebiffais. « Je sais que c'est toi le responsable, Lour, et je te trouve injuste avec moi. Je n'y suis pour rien si tu participes à ce voyage. » Il s'assit lentement dans son lit et laissa pendre ses jambes nues de sa couchette.
« À qui la faute alors, hein? Qui m'a forcé à monter dans ce bateau en sachant que j'allais en mourir ?»
Je constatai aussitôt mon erreur. Impossible de lui répondre que j'obéissais aux ordres du prince. Imbre avait raison. Je devais endosser la culpabilité de son embarquement. Je soupirai. « Oui, je t'ai emmené, Lour, parce que nous avons besoin de ton aide si nous voulons réussir à tuer le dragon. » J'insufflai dans ma voix tout l'enthousiasme et toute la passion que je pus puiser au fond de moi. « Tu n'as pas envie d'aider le prince, de partager notre belle aventure ?» Il me dévisagea, les yeux plissés, comme si j'avais perdu la raison.
« Belle aventure ? Vomir et manger des trucs qui puent le poisson, se sentir bouger sans arrêt de haut en bas, rencontrer des gens qui se demandent pourquoi je ne suis pas mort. »
Il croisa ses petits bras sur sa poitrine.
On m'a raconté des histoires d'aventure. L'aventure, c'est des pièces d'or, de la magie, des jolies filles qu'on embrasse. C'est pas des gobelets tout le temps.
En cet instant, j'inclinai à penser comme lui. En quittant la cabine, je trébuchais sur le seuil.
« Lour ! » m'exclamai-je d'un ton de reproche.
« J'ai rien fait !»
protesta-t-il, ce qui ne l'empêcha pas de s'esclaffer. Les petits navires filaient sur les vagues crêtées d'écume et les vents nous étaient favorables. Pourtant, le voyage me parut interminable. La journée, je m'efforçais de garder un œil sur les leçons de l'Est, tout en veillant, sans trop m'infliger de plaies et de bosses, à ce qu'on ne négligea pas Lour. La nuit, je m'évertuai à contacter ma fille, sans résultat. Quand nous mouillâmes enfin à Zilig, j'avais l'impression de n'être plus qu'une épave qui tenait debout par miracle. J'en avais peut-être aussi l'aspect, car Tram vint s'accouder près de moi au bastingage alors que je regardais le port approcher.
« Je ne vous demande de me révéler aucun secret, » dit-il à mi-voix, « mais je vous offre, dans la mesure de mes moyens, de vous aider à porter le fardeau qui vous écrase. »
« Merci. Mais vous l'avez déjà grandement allégé. Je sais que je n'ai guère fait preuve de patience avec l'Est ces jours derniers et que vous l'avez assisté pour son instruction. Je sais aussi que vous êtes souvent allé voir Lour pour le garder de l'ennui. Personne ne peut guère m'aider davantage en ce moment. Merci. »
« Très bien, »
fit-il d'un ton de regret. Puis il me tapota l'épaule amicalement et se retira. J'eus l'impression que notre séjour à Zilig n'en finirait jamais. Nous dormions dans la maison forte locale et j'y passais nombre de mes journées. Lour toussait toujours, mais je ne le croyais plus aussi malade qu'il le prétendait. Bien que rester à son chevet ne présentât aucun intérêt, j'estimais devoir m'y tenir car, lorsque, à deux reprises, je le persuadais de s'aventurer à l'extérieur, les regards qu'on lui adressa n'avaient rien de bienveillant. Il était le canard boiteux d'une basse-cour bien portante, prête à le tuer à coups de bec au premier prétexte. Je sentais son hostilité à mon encontre, mais ma conscience m'interdisait de le laisser seul. Il ne me demandait jamais de demeurer avec lui, mais quand je quittais sa chambre, il trouvait toujours une excuse pour me suivre, ou bien il me faisait appeler quelques minutes plus tard. La première fois où Tram vint lui tenir compagnie, sur la suggestion d'Imbre, je crus que ce dernier cherchait à nous rapprocher, le maître de Vif et moi. Mais il me convoqua aussitôt et m'envoya en ville, déguisé en outrilien, jusqu'au tatouage, au motif de chouette, qu'il avait rapidement dessiné sur ma joue.
À l'aide de fards et de poids, il m'avait affligé d'une méchante cicatrice contournée à la lèvre inférieure afin d'expliquer mon attitude taciturne et mon parler guttural. Il me donna de l'argent pour passer la soirée à visiter les tavernes locales surchauffées et boire la mauvaise bière qu'on y servait. Je remplis cette mission à plusieurs autres reprises, toujours sous l'aspect d'un marchand d'un clan étranger. Dans un centre négociant de l'importance de Zilig, nul ne prêtait attention à un visage inconnu dans une auberge bruyante. J'avais pour ordre d'ouvrir grand les oreilles aux on-dit et aux propos qu'échangeaient les clients. Nos tractations avec le Hedgurd suscitaient l'intérêt à de nombreux égards, et l'on offrait de généreux pourboires aux bardes du cru pour qu'ils chantent tout leur répertoire concernant Aslevial et Glacefeu, tandis qu'on racontait de vieilles histoires de famille pour épater les amis devant la cheminée de l'établissement. J'écoutais attentivement et réduisais rumeurs et légendes à des facteurs communs vraisemblables. J'acquis ainsi la conviction que les glaces d'Aslevial renfermaient bel et bien quelque chose, que nul n'avait plus distingué clairement depuis près d'une génération. Certains évoquaient l'aventure de leur père qui avait visité l'île. Quelques-uns avaient campé sur la grève et gravi le glacier pour apercevoir le site légendaire. D'autres s'y étaient rendus à l'époque des basses eaux annuelles, où la marée, en se retirant, dévoilait un passage sous la glace dans la partie sud de la terre. D'après tous les récits, l'entreprise présentait de grands risques, car une fois dans les chenaux emmurés de glace bleue, on pouvait facilement s'égarer ou mal calculer le temps et s'attarder trop. Alors la mer revenant s'emparait des imprudents et ne rendait jamais leurs ossements. Pour ceux qui possédaient l'intelligence, la vigueur et l'habileté nécessaires, le tunnel sous la glace débouchait dans une immense caverne où l'on pouvait s'adresser au dragon pris au piège et lui demander une faveur. On disait que certains avaient ainsi obtenu le don de la chasse, d'autres la chance avec les femmes, et d'autres encore la fécondité de leur maison maternelle. Il était aussi question de l'homme noir d'Aslevial à qui on laissait des offrandes. Certains le décrivaient comme un ermite, d'autres comme l'esprit gardien du dragon, et tous s'accordaient à le dire dangereux et à considérer comme avisé d'attirer ses bonnes grâces par un présent. On affirmait d'un côté que la viande crue convenait le mieux. On soutenait de l'autre qu'on pouvait acheter sa bienveillance avec des paquets d'herbes à tisane, des perles brillantes ou du miel. Par deux fois, j'entendis parler de l'île en relation avec la guerre des pirates rouges. On abordait moins ce sujet-là, et on ne s'étendait pas sur les anecdotes de cette période qui ne s'achevait pas par une victoire. Néanmoins, par bribes et morceaux, j'appris que Kébal Pincru et la femme pâle avaient voulu établir une place forte sur Aslevial. Nul n'en évoquait la raison, mais de nombreux prisonniers des six duchés y avaient été transportés pour y travailler comme esclaves jusqu'à la fin de leur jour. Apparemment, Pincru avait assujetti aussi les familles des Outriliens qui s'opposaient à la guerre. Il les avait forgisés, puis embarqués pour Aslevial, et on ne les avait plus jamais revus. L'île avait acquis de ce fait une aura de honte et d'horreur qui le disputait à celle qui entourait son dragon légendaire, et bien rares étaient ceux qui désormais souhaitaient y faire pèlerinage pour prouver leur valeur. J'engrangeais minutieusement tous ces détails pour les rapporter à Imbre et Devoir. Lors de nos discussions nocturnes, mon vieux mentor et moi tâchions de voir comment il pouvait nous aider ou nous contrarier dans notre quête. Parfois, j'avais l'impression que nous débattions de ces rumeurs nébuleuses uniquement parce que nous manquions d'éléments sûrs sur quoi nous fonder. Devoir participa à deux longues réunions du Hedgurd qui durèrent chacune plusieurs jours. Et il en ressortit que les Kaempra avaient fixé les termes de notre chasse aux dragons comme s'il s'agissait d'un concours de lutte ou de tir à l'arc. Imbre fulminait parce que le clan du sanglier avait mené les négociations et nous avait liés à leurs résultats sans nous consulter une seule fois. Je n'assistais pas à la scène, mais j'appris qu'Arcon Sangrépé avait manifesté quelques surprises quand le prince, avec une courtoisie glacée, avait exprimé son mécontentement devant les conditions imposées.
« Nous ne pouvons changer ce qu'il a accepté en notre nom, » me dit Imbre d'un air lugubre. « Mais la tête de Sangrépé valait le déplacement quand Devoir lui a dit « Ma parole m'appartient et moi seul puis la donner. N'ayez plus jamais l'outrecuidance de parler à ma place. »
Il me raconta l'anecdote, un verre d'eau-de-vie à la main, après m'avoir servi, dans la pièce de la maison forte que nous occupions lors de notre premier séjour. Lourd et Devoir se trouvaient dans celle d'à côté. Je n'entendais que la mélodie de leur conversation. Le prince expliquait avec calme au petit homme pourquoi il devait prendre le bateau le lendemain. Et le ton de son interlocuteur passait de la pleurnicherie d'enfant à la colère d'adulte. L'affaire ne paraissait pas bien se présenter. Toutefois, étant donné l'engagement que Sangrépé avait pris pour nous, je ne voyais pas comment elle pourrait plus mal tourner. Nos nobles n'étaient pas restés inactifs pendant notre absence, et ils avaient obtenu de meilleurs résultats que je ne l'espérais. On scellait déjà des alliances commerciales entre divers clans et des maisons des six duchés. Apparemment, arborer leur armoirie de famille les différenciait assez du cerf loin-voyant pour leur permettre d'aborder les clans outriliens sans souffrir de préjugés. Devoir dîner avec eux quasiment tous les jours, et chaque souper apportait son lot de nouveaux traités de commerce. Si le prince parvenait à offrir une tête de dragon à la Narcheska, nous aurions parti gagner. Des liens si forts, économiques et conjugaux uniraient les six duchés et les îles d'outre-mer que plus personne n'aurait intérêt à la guerre. Toutefois, le Hedgurt semblait décidé à nous compliquer la tâche. Le prince loi-voyant avait l'autorisation de jeter le gant au dragon, mais les chefs de clan avaient établi des règles strictes pour la confrontation. À notre départ pour Aslevial, Devoir serait escorté, non de sa garde, mais seulement d'un nombre réduit d'hommes. Le clan de Vif composait la majorité de ce groupe, et jusque-là, le futur souverain avait toujours repoussé la suggestion d'Imbre de remplacer ses alliés vifiés par des combattants aguerris. Comme il l'avait lui-même défié, la Narcheska nous accompagnerait. Nous supposions, de ce fait, la présence à ses côtés de Péotre et peut-être de quelques guerriers du Narval ou du Sanglier, bien qu'on ne nous eût nullement assuré leur assistance. Un navire choisi par le Hedgurd nous transporterait sur l'île. Il embarquerait également 6 représentants de l'Assemblée des Kaempra, qui veilleraient à ce que nous nous soumettions aux règles prescrites. 6 guerriers issus de 6 clans, autres que le Sanglier ou le Narval. Ils auraient le droit de se défendre en cas d'attaque du dragon, mais en toute autre circonstance, ils ne devraient pas le toucher, ni nous aider d'aucune façon. Nous emporterions seulement ce qu'on pouvait charger dans le bateau, et une fois à terre, nous devrions déplacer cette cargaison à dos d'homme. Je m'étonne qu'il n'ait pas exigé un combat singulier entre le prince et le dragon.
« On n'en est pas passé loin, » répondit Imbre avec aigreur. « Il doit être le premier à braver la bête, et il est fortement recommandé qu'il s'efforce de lui porter le coup de grâce, si possible. Ces gens connaissent assez la guerre pour savoir que, dans le feu du combat, nul ne peut dire qui a donné le coup fatidique. » Un de leurs bardes nous suivra en tant que témoin, comme si nous avions besoin de ça. »
Il se gratta la barbe d'un air las.
« De toute façon, tout ça ne nous inquiète guère. Comme je le répète depuis le début, il s'agira sans doute de dégager ce qui se trouve prisonnier de la glace plutôt que d'affronter une créature vivante. J'espérais seulement disposer d'une main-d'œuvre plus nombreuse pour cette partie de l'entreprise. »
Il toussota et prit une expression légèrement suffisante.
« Mais je possède peut-être un atout qui nous rendra le même service. »
À combien d'hommes Devoir a-t-il droit ?
12, et nous atteignons ce chiffre beaucoup trop vite. Tram, civil, Niel, Crible, Lourd, Longue Mèche, 4 gardes, toi et moi. »
Il secoua la tête.
« J'aimerais que Devoir accepte de laisser au moins civil et Niel ici. 2 soldats aguerris de plus pourraient faire toute la différence. »
Et l'Est ? Reste-t-il lui aussi? J'ignorais si j'éprouvais du soulagement ou du malaise à cette idée.
Non, nous l'emmenons, mais comme ce n'est qu'un enfant, il n'entre pas dans le compte de notre contingent de guerriers.
Et nous partons demain?
Imbre acquiesça de la tête. Longue Mèche a passé la semaine à accumuler des vivres. La plupart des victuailles que nous avons apportées des six duchés ont été consommées. Et nous devrons malheureusement nous sustenter de la provende locale. Il a effectué un tri dans ce qui nous restait et acheté ce qu'il faut pour 12 personnes. Je l'ai prévenu qu'il y aurait aussi un marguet à nourrir. Chacun de nous emportera des armes, qu'il sache s'en servir ou non. Une hache pour toi ?
Je fis un signe affirmatif. Et une pour l'Est également. Il a son arc et ses flèches, mais, comme vous l'avez dit plus tôt, un ustensile capable de tailler dans la glace se révélera peut-être plus utile. Il soupira.
À partir de là, « je demeure à court d'imagination.
J'ignore totalement ce qui nous attend sur place, Fitz. Nous aurons des provisions de bouche, des tentes, des armes et quelques outils, mais en dehors de ça, je ne sais pas du tout ce dont nous aurons besoin. »
Il se versa une maigre rasade d'eau-de-vie.
« Je ne nierai pas le plaisir que j'éprouve à savoir Péotre aussi désemparé que moi. L'anarchesca et lui nous accompagneront. Sangrépé sera de la traversée, mais je ne pense pas qu'il restera pour la décollation du dragon. »
Il sourit ironiquement de sa propre expression, doutant qu'elle recouvre quelque réalité.
N'empêche qu'instaurer des règles semblables à celles d'un concours nous gêne diantrement. On ne nous accorde pas plus de 2 oiseaux messagers, et encore ne serviront-ils qu'à rappeler le navire quand nous serons prêts à quitter l'île. En attendant, ils se tiendront sous garde de nos chaperons. »
Ces mots engagèrent mon esprit dans une voie différente. « Pensez-vous que celui que vous avez envoyé à Ketriken est déjà parvenu à destination ?» Il m'adressa un regard de pitié.
« Impossible de le savoir. Tu ne l'ignores pas plus que moi. Le vent, les tempêtes, un faucon. Tant d'imprévus peuvent retarder ou arrêter un oiseau. En outre, ces bêtes se déplacent toujours en direction de leur nichoir ou de leur compagnon. Ketriken n'a aucun moyen de nous répondre. »
Avec circonspection, il ajouta,
« As-tu songé à tenter de contacter Burik ?»«
J'ai essayé la nuit dernière, » répondis-je. Comme il haussait les sourcils, je poursuivis.
« Rien.
J'étais comme un papillon qui se cogne contre un verre de lampe. Il me reste impénétrable. Il y a des années, je parvenais à capter des aperçus de Molly et lui. Rien à voir avec une véritable communication d'esprit à esprit. Mais, bref, je n'arrive à rien. Ce lien a disparu. Je pense qu'Orti me servait de point focal, même si je ne voyais pas les images par ses yeux.
« Intéressant, » murmura-t-il.
Je savais qu'il rangeait ce détail dans un coin de sa mémoire en prévision d'un usage futur.
« Mais tu ne parviens pas à joindre Orti. »
Non. Je n'avais laissé percer aucune émotion dans ma réponse. Je me penchais sur la table pour saisir la bouteille d'eau-de-vie.
« Doucement avec l'alcool, »
fit Imbre d'un ton d'avertissement. « Je suis loin d'être ivre, » lançai-je avec agacement.
« Je n'ai pas dit ça, » répondit-il d'un ton mesuré. « Mais il ne nous en reste guère, et nous risquons d'en avoir besoin sur Aslevial plus qu'ici. »
Je reposai la bouteille alors que Devoir rentrait. Lourd le suivait, l'air maussade.
« Je ne partirai pas !»
déclara-t-il. « Si, tu partiras !» rétorqua fermement le prince.
« Non !»«
Si !»«
Assez !»
lança Imbre, comme s'il s'adressait à des enfants.
« Non !»
souffla le petit homme en s'asseyant lourdement à table. « Si !» répéta Devoir. « À moins que tu ne préfères demeurer ici tout seul, sans personne à qui parler, assis tout seul dans cette pièce à attendre que nous revenions ?» Lourd releva le menton, lèvres saillantes et langue pointant d'un air de défi. Puis il croisa ses bras courtois et toisa l'adolescent.
« Je m'en fiche. Et puis d'abord, je ne serai pas seul. J'aurai qu'à parler avec Orti. Elle me racontera des histoires. »
Je me redressai avec un sursaut. « Tu parles avec Orti ?» Il m'adressa un regard furieux, comme s'il se rendait compte qu'il s'était coupé en voulant faire bisquer Devoir. Il balança les jambes.
« Peut-être, mais toi, tu ne peux pas. »
Je le savais. Je ne devais ni me mettre en colère, ni tenter de l'acculer. « Parce que tu l'empêches de m'atteindre ?»«
Non, elle ne veut pas te parler, c'est tout. »
Il m'observa d'un œil scrutateur, peut-être pour voir si cette perspective m'ennuyait plus que l'idée qu'il pût nous interdire de communiquer. Il avait raison, c'était le cas. En aparté, je transmis une supplique à Devoir.
« Tâchez de découvrir si elle ne risque rien. »
Le regard de Lourd se dirigea vers le prince, puis revint aussitôt sur moi. Devoir garda le silence. Il avait compris, comme moi, que le petit homme avait senti notre échange. Quoi qu'il dit à présent, le soupçon pèserait sur ses propos, d'autant plus que leur conversation précédente avait pris le simple d'esprit à rebrousse-poil. Je décidai d'y revenir. « Ainsi, tu ne nous accompagneras pas quand nous partirons, Lourd. »
« Non, plus de bateau !»
Les mots étaient cruels, je les prononçais pourtant. « Alors, comment rentreras-tu à la maison ? Il n'y a pas d'autre moyen que le bateau. »
Il prit l'air dubitatif.
« Vous n'allez pas à la maison, vous allez sur l'île du dragon. »
« Oui, d'abord, mais ensuite nous rentrons. »
« Et vous passerez prendre l'ours. »
« Peut-être, » fit Devoir.
« Peut-être, si nous sommes toujours vivants, » enchaîna Imbre. « Nous comptions sur ton aide, mais si tu ne viens pas avec nous... »
Il haussa les épaules.
« Le dragon risque de nous tuer tous. »«
Bien fait pour vous, »
répondit l'ours, avec un plaisir sinistre. Mais je crois que nous avions réussi à fissurer sa résolution, car assis, les yeux fixés sur ses mains rondelettes crispées au bord de la table, il parut se perdre dans ses réflexions. D'un ton pensif, et en parlant lentement, Imbre me dit
« Si Horty raconte des histoires à l'ours pour lui tenir compagnie, c'est qu'elle ne court pas grand risque, à mon avis, Fitz. »
S'il espérait susciter un commentaire de la part de l'ours, il se trompait. Avec un « méprisant, le petit homme s'adossa fermement dans sa chaise, les bras croisés. « N'insistons pas, » fis-je à mi-voix. Je tâchais d'imaginer pourquoi Horty m'en voulait au point de rompre tout contact, mais les raisons possibles se présentèrent en trop grand nombre. Toutefois, ainsi que je me le dis avec sévérité, la savoir en vie et en colère contre moi valait mieux que la croire morte avec toute sa famille tuée par un dragon. La certitude que j'appelais de mes vœux restait inaccessible, et de tout mon cœur, je priais pour une prompte arrivée à destination de l'oiseau messager que nous avions envoyé. Qu'Horty nourrit de la rancœur contre moi, soit, mais en lieu sûr. Nous ne discutâmes guère davantage ce soir-là. Nous allâmes préparer nos bagages pendant qu'Imbre parcourait d'un œil soucieux un manifeste de cargaison en marmonnant dans sa barbe. L'ours resta ostensiblement les bras ballants, sans rien empaqueter. À un moment, Devoir entreprit de rassembler ses affaires et de les fourrer dans un sac, mais le petit homme les vida par terre, et ni l'un ni l'autre n'y toucha plus. Elle n'avait pas bougé quand nous nous couchâmes. Je dormis mal. Sachant désormais qu'Horty se coupait volontairement de moi, je réussis à trouver la barrière qu'elle dressait et à en percevoir la forme. Ce qui m'agaça davantage fut de sentir l'ours observer mes tâtonnements et se réjouir de mon incapacité à franchir l'obstacle. Sans sa présence, j'aurais peut-être fait un plus grand effort pour m'introduire dans les rêves d'Horty. En l'occurrence, je renonçais et tentais de m'enfoncer dans le vrai sommeil. Mais je passais une nuit fatigante, tranché en bref songe où je vis tous les gens à qui j'avais fait du mal ou défaut, depuis Burick jusqu'à Patience, et dont les plus marquants furent ceux où le fou me regardait avec une expression accusatrice. Nous nous levâmes avant le soleil le lendemain, et nous prîmes le petit déjeuner dans un silence quasiment complet, aux côtés d'un lourd boudeur et furieux qui attendait que nous tâchions de le convaincre ou lui ordonnions autoritairement de se mettre en route. Par un accord tacite, nous ne lui dîmes rien, et les rares paroles que nous échangeâmes ne s'adressèrent pas à lui. Nous achevâmes nos paquetages personnels, puis Crible se présenta pour nous aider à les transporter. Imbre laissa le garde prendre son sac, mais Devoir tint à se charger du sien, et nous partîmes. Crible marchait un pas derrière Imbre, son bagage dans les bras. Longue-Mèche et les quatre autres gardes nous suivaient. Je ne les connaissais pas bien. Instinctivement, j'éprouvais de la sympathie pour Est, un tout jeune homme. Perdreau et Rossé étaient des amis proches et des soldats aguerris, et je savais seulement d'adroit qu'il méritait son nom une paire de dés au creux de la main. Le reste de notre escorte militaire demeurerait à Azilig avec les nobles. Notre petit groupe avait rendez-vous sur les quais. Comme nous descendions les rues pavées, je demandais « Que ferons-nous si l'ours ne nous rejoint pas ?»« Nous le laisserons. » répondit Devoir, renfrogné. C'est impossible, vous le savez bien, dis-je, et il émit un grognement.
Je peux retourner le chercher et le ramener de force, proposa Crible, sans conviction.
Je fis la grimace à cette perspective, et Imbre secoua la tête. Nous risquons de devoir en passer par là, artisai-je au prince et à son conseiller. Je ne puis m'en charger, parce qu'il est capable de me terrasser d'un coup d'art. Mais quelqu'un qui ne possède pas l'art et d'insensible à la puissance de l'ours réussirait peut-être à le contraindre physiquement. Rappelez-vous les mauvais traitements que lui infligeaient les domestiques qui lui extorquaient son argent. Naturellement, il faudrait affronter sa rancune au cours des jours à venir, mais au moins, il ne nous quitterait pas.
« Attendons, nous verrons bien, »
répliqua le prince, la mine sombre. Comme nous approchions des quais, les rues s'encombrèrent de plus en plus et nous finîmes par comprendre qu'une véritable foule s'était assemblée pour assister à notre départ. Chargé depuis la veille, le Cartanier n'attendait plus que notre embarquement et le changement de marée du matin pour prendre la mer. Une humeur étrange semblait régner chez les Outriliens. On eût dit qu'ils venaient regarder une compétition de champions et que nous n'étions pas les favoris. Personne ne nous jeta de légumes pourris ni d'insultes, mais leur silence entendu faisait presque aussi mal qu'une lapidation. Près du navire, les nobles des six duchés s'étaient réunis pour nous adresser leurs adieux et leurs vœux de bonne chance. Ils s'agglutinèrent autour du prince pour lui souhaiter la meilleure fortune, et comme je m'étais arrêté docilement derrière lui, je fus frappé du peu qu'il savait de sa quête et de sa portée. Ils lui lançaient des plaisanteries bon enfant, formulaient leurs espoirs de réussite, mais aucun ne paraissait particulièrement inquiet pour lui. Nous montâmes à bord sans que l'ours se fût manifesté. L'accablement me saisit et la peur me noua le ventre. Nous ne pouvions pas l'abandonner seul à Zilig, malgré tout l'agacement de devoir envers lui. Je ne redoutais pas seulement les initiatives éventuelles qui lui passeraient par la tête en notre absence, mais aussi ce qui risquait de lui arriver une fois privé de la protection du prince. Les nobles des six duchés se préoccuperaient-ils du sort d'un serviteur simple d'esprit, alors que devoir se trouvait au loin? Je m'appuyais au bastingage, et passant sur la foule qui grouillait sur le quai, je portais le regard vers la maison forte. Tram vint s'accouder près de moi.
« Alors, pressé d'entamer le voyage ?»
J'eus un sourire amer. Le seul que j'entamerai avec plaisir sera celui qui nous ramènera chez nous.
« Je n'ai pas vu l'ours embarquer. »
« Je sais, nous l'attendons. » Il renâclait à remonter à bord d'un navire, mais nous espérons qu'il se décidera à nous suivre de son propre gré. Tram hocha lentement la tête d'un air philosophe, puis il s'éloigna. Je restai à me ronger les sangs et à me mordiller l'ongle du pouce.
Lourd, tu viens. Le bateau va bientôt partir.
Fiche-moi la paix, pue le chien!
Il mit une si violente colère dans cette épithète que je crus sentir l'odeur de l'image qu'il me jeta à la tête. Je perçus, frémissant aux limites de sa fureur, sa peur et sa peine de nous voir l'abandonner. Notre départ l'emplissait d'angoisse et d'agitation, mais je craignais que son obstination ne l'emportât néanmoins. Le temps et la marée n'attendent personne, Lourd. Décide-toi vite, parce que, lorsque le courant sera propice, le bateau devra partir, et après, même si tu nous dis que tu as changé d'avis et que tu veux nous accompagner, il sera trop tard. Nous ne pourrons plus revenir te chercher.
M'en fiche.
Là-dessus, il referma si brutalement ses remparts que j'eus l'impression de recevoir une gifle en plein visage, et surtout d'avoir aggravé la situation. Trop rapidement, je vis commencer les derniers préparatifs de notre départ. On apporta une cargaison tardive venue du Fortune de Vierge qui comprenait plusieurs petits barils. Je souris en me demandant si Imbre s'était rappelé la présence d'une réserve d'eau-de-vie sur l'autre navire. On embarqua aussi des armes et des outils, et l'on bourra les coins inutilisés de la cale avec tout le matériel qu'Imbre pensait pouvoir nous servir. Mais l'heure de partir arriva finalement. Ceux qui étaient venus souhaiter un bon voyage au prince quittèrent le pont, et les représentants du Hedgurd montèrent à bord avec leurs affaires. On arrima le fret de dernière minute, et les canots chargés de nous remorquer hors du port jusqu'en mer se mirent en place. Tram, l'air soucieux, se campa près de moi devant la lisse. « Je ne crois pas qu'il viendra, » murmurai-je. Je me sentis prêt à défaillir. « Je vais parler au prince. Il faut envoyer quelqu'un le chercher. »«
Je m'en suis occupé, »
répondit le marin, la mine sombre. « Vraiment ? » ?»«
Et qu'a dit le prince ?»
Je n'avais vu aucun de nos gardes descendre sur le quai.
« Comment ? » ?»« Ah, non, je ne lui ai pas parlé, » fit-il d'un ton distrait. « J'ai envoyé quelqu'un. Lest. »
Comme en aparté, il marmonna.
« J'espère que l'épreuve ne le dépasse pas. Je le pense capable de réussir, mais j'aurais peut-être dû m'en charger moi-même. »
« Lest ?» Mentalement, je comparais le jeune enfant au simple d'esprit, et je secouais la tête. Il n'y arrivera jamais. Malgré sa maladresse, Lourd manifeste une robustesse étonnante quand il s'énerve. Il risque de faire mal aux petits. Mieux vaut que j'y aille. Tram agrippa mon bras.
« Non, regardez, il y est parvenu, et voilà. »
Au soulagement qui perçait dans sa voix, on eût cru que l'Est était venu à bout de quelque entreprise monumentale. Et, en toute justice, peut-être avait-il raison. Je regardais le petit homme qui avançait de sa démarche pataude à côté du gamin frêle. L'Est portait le sac de lourd et il lui tenait la main dans une attitude protectrice. J'en restais pantois. Mais, malgré la distance, l'expression de l'enfant ne laissait pas de place au doute. La tête droite, sur ses gardes, il soutenait le regard de tous ceux qu'il croisait, comme s'il les mettait au défi de se moquer du simple d'esprit ou d'entraver leur progression. Jamais je n'avais assisté à pareille exhibition de courage, et mon estime pour lui remonta en flèche. Il m'aurait fallu puiser dans les plus extrêmes ressources de ma volonté pour mener lourd par la main au travers de cette foule. Pourtant, l'Est poursuivait son chemin. Comme ils approchaient, je distinguais mieux le visage de son compagnon et je me rendis compte qu'il n'obéissait pas seulement à l'ordre d'un jeune garçon de l'accompagner. « Qu'arrive-t-il à Lourdes ? » demandai-je à Tram à mi-voix. « C'est le lignage, vous le savez bien. » Il m'avait répondu dans un murmure sans me regarder. « Ça opère mieux de vif à vif, comme vous diriez, mais on peut exercer une attraction même sur ceux qui ne le possèdent pas. J'y ai entraîné l'Est. J'aurais préféré lui imposer une épreuve moins rude, mais il s'en tire bien. Je le constate en effet. Les traits imprégnés de confiance, Lourdes suivait l'enfant qui le conduisait vers la passerelle d'embarquement. Au pied de la planche, il hésita et marqua un arrêt. Alors que l'Est lui souffla quelques mots à l'oreille, puis, sans lâcher sa main, l'entraîna sur le bateau. Je restai un instant irrésolu, mais la curiosité l'emporta. Je sais repousser grâce au vif ceux qui m'assaillent, et ce depuis toujours, me semble-t-il, mais comment s'en sert-on pour attirer les gens? Ah, voyons. On peut découvrir le répulsif de façon instinctive, mais d'habitude on apprend en même temps l'attractif. Je pensais que vous le connaissiez. Je comprends maintenant pourquoi vous n'y aviez jamais recours avec lourd. Il pencha la tête et me jaugea du regard. Parfois, vos lacunes me sidèrent. On dirait que vous avez oublié ou perdu, je ne sais comment, une partie de vous-même. » Il dut remarquer le malaise que ces paroles suscitaient chez moi, car il changea soudain de ton et se mit à parler de manière plus générale. « Je pense que toutes les créatures se servent de cette influence d'attraction, dans une certaine mesure, sur leurs petits ou lorsqu'elles désirent s'accoupler. Peut-être l'avez-vous utilisé vous-même sans en avoir conscience, mais voyez-vous, voilà précisément la raison pour laquelle celui qui a reçu le don de cette magie doit faire un effort pour en approfondir sa connaissance, afin d'avoir conscience de la façon dont il l'emploie. » Il se tut un moment, puis ajouta, « Je vous offre, encore une fois, de vous enseigner ce que vous devez savoir. » Il faut que j'aille voir Lourdes pour l'installer. Je me détournai en hâte. « Oui, je sais. Vous êtes chargé de quantité de tâches et de devoirs, et j'ignore quels autres services vous rendez à votre prince. Je ne doute pas qu'à tout instant du jour, vous pouvez trouver un prétexte pour vous dire trop occupé. Toutefois, on prend le temps nécessaire pour ce qui est important dans l'existence. J'espère donc que vous viendrez me voir. Je ne renouvellerai pas cette proposition. À vous de l'accepter ou non, désormais. » Et avant que j'eusse le temps de m'enfuir, il s'en alla tranquillement. Au sommet du mât, Risque s'éleva dans le ciel avec un cri que m'apporta la brise. On largua les amarres, on ramena la passerelle, et dans leur canot, les hommes se courbèrent sur leurs avirons pour nous éloigner des quais et nous conduire là où le vent gonflerait nos voiles. Je me fis la promesse de m'entretenir avec Tram en privé dans la journée pour qu'il m'apprenne ma magie. J'espérais que je ne me mentais pas. Mais rien n'est jamais simple. Avec la Narcheska, son père Harkon s'engrippé et son oncle Péotre à bord, Devoir et Imbre passaient le plus clair de leur temps en compagnie de l'un ou de l'autre, et je n'avais guère l'occasion de leur parler seul à seul. Comme précédemment, je me voyais relégué à la société de Lourdes qui, du fond de son abattement, jugeait normal que je partage son malheur. Il recommença de m'infliger des bleus et des éraflures comme lors de notre dernier voyage, et je n'avais guère de moyens d'y parer. Dresser mes remparts mentaux contre sa subtile influence m'aurait coupé du prince et de son conseiller. Je supportais donc ces petites humiliations. Pour ne rien arranger, Nous voguions sur une mauvaise mer où nous devions affronter des courants et des flux apparemment toujours contraires. Pendant 2 jours, nous fûmes atrocement ballottés, et l'Our tomba victime d'un mal de mer qui n'avait rien d'imaginaire, pas plus que celui de Niel, Lest et Civil. Ceux d'entre nous qui y échappèrent mangèrent avec frugalité et se déplacèrent en ne lâchant une prise qu'assurée d'en tenir une autre. J'aperçus la Narcheska, très pâle, qui se promenait sur le pont au bras de Péâtre. Ni l'un ni l'autre ne paraissait au comble du bonheur. Les journées s'écoulèrent lentement. Je ne trouvais pas le loisir de discuter du vif avec Tram. De temps en temps, je me rappelais mon intention, mais toujours au moment où 10 autres sujets exigeaient mon attention. Je m'efforçais de me convaincre que seules les circonstances m'empêchaient de lui parler, mais, en réalité, je n'aurais su expliquer ce qui me retenait. Notre destination se dessina enfin à l'horizon. Asclevial compte parmi les plus septentrionales des îles d'outre-mer, et même de loin, elle présentait un aspect lugubre, chicot de roc et de glace dans un visage rébarbatif. L'été n'y triomphe jamais tout à fait, et la douceur qu'apporte sa courte visite ne suffit pas à dissiper la neige déposée l'hiver précédent sur les hauteurs. La plus grande partie de l'île gît prisonnière du glacier qui l'étreint, empalée lui-même par les pics aigus de son socle de pierre. Certains disent qu'elle se compose en réalité de 2 terres reliées par la glace, mais j'ignore sur quoi se fonde cette croyance. La marée basse dénude des grèves de sable noir qui lui font comme une jupe funèbre. À l'une de ses extrémités, une étendue de plage rocailleuse où rien ne pousse et la base d'une falaise reste toujours découverte. Ailleurs, des affleurements rocheux crèvent la pâle couverture gelée. Je ne savais si le brouillard qui enveloppait l'île provenait de la glace qui fumait sous le soleil ou de la neige soulevée par l'incessante bise de nord que nous affrontions. Lentement, à cause du vent et de la mer qui semblait se liguer contre notre progression, nous approchions péniblement de l'île en louvoyant. Je me tenais au bastingage quand Devoir et la Narcheska, accompagnés d'Imbre et de Péâtre, sortirent contempler notre but. Devoir fronça les sourcils. « Je n'imagine pas un animal s'installant de son plein gré dans un pareil bout du monde, et surtout pas une créature de la taille d'un dragon. Que ferait-elle ici ?» La Narcheska secoua la tête et répondit à mi-voix. « Je l'ignore. Je sais seulement que nos légendes le disent sur Asclevial. C'est donc là que nous devons aller. » Elle s'emmitoufla plus étroitement dans son manteau de laine. Le vent semblait nous souffler la morsure glacée de l'île au visage. Dans l'après-midi, nous tournâmes un promontoire et nous dirigeâmes vers l'unique mouillage. Les rapports de nos espions nous avaient appris qu'il s'agissait d'une baie jadis occupée, mais aujourd'hui abandonnée, où se dressaient les vestiges d'un appontement et quelques édifices de pierre qui tombaient en ruine. Pourtant, j'aperçus une tache de couleur vive au sommet de la falaise qui surplombait la grève. Comme je l'observais en m'efforçant d'en deviner la nature, une silhouette en sortit, et je compris qu'il s'agissait d'une tente ou d'un abri de ce genre. L'homme alla se placer à l'extrême bord de la pique, une coule rabattue sur sa tête, tandis que le reste de sa cape noire et blanc battait dans les rafales. Sans lever la main pour nous saluer, il demeura droit dans le vent à nous regarder approcher.
« Qui est-ce ? »
demanda Imbre à Péâtre, quand les appels de la vigie au capitaine les eurent ramenés sur le pont.
« Je n'en sais rien, » répondit Onde Noire.
L'angoisse imprégnait sa voix.
« Peut-être l'homme noir des légendes, »
dit Sangrépé. Il se pencha pour étudier avidement la silhouette solitaire sur la falaise.
« J'ai toujours voulu savoir si ce qu'on raconte était vrai. »
« Je n'ai aucune envie de l'apprendre, »
fit la Narcheska à mi-voix, les yeux agrandis par la peur. À mesure que nous progressions vers la petite baie, les passagers envahissaient le pont pour voir notre destination et regarder l'inquiétant personnage qui nous surveillait. C'est seulement quand nous eûmes jeté l'ancre et que nos canots s'apprêtèrent à nous transporter à terre avec notre matériel qu'il quitta son immobilité. Il descendit jusqu'à la grève et s'arrêta à la ligne de marée. Avant même qu'il ne rejetât sa capuche en arrière, mon cœur manqua un battement et l'angoisse me noua le ventre. Le fou m'attendait.
Vous venez d'écouter Le Dragon des Glaces, L'Assassin Royal, tome 11, de Robin Hobb,
Traduit par Arnaud Mounier-Lempré. Lu par Sylvain Agaès.